le fil secret.
Que peuvent bien se raconter de grands musiciens lorsqu'ils se croisent? Voici le fil secret de leur rencontre.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
En 1860, à Calisté, à mi-chemin entre Vienne et Prague, naît Gustav Mahler. 5 ans plus tard, c'est Jean Sibelius qui voit le jour à Eminlina, à 50 km au nord d'Helsinki. Les parents de Mahler sont de modestes aubergistes. Il est cependant admis au conservatoire de Vienne, compte tenu de ses dons musicaux exceptionnels. Il fait de brillantes études et entame dès ses 20 ans une carrière de chef d'orchestre. En 1901, c'est la consécration. Il est nommé directeur musical de l'opéra de Vienne. En 1910, Mahler se découvre une grave maladie de cœur, tandis que des cabales finissent par l'évincer. Il entreprend alors des tournées aux États-Unis, mais il succombe en 1911 d'une inflammation cardiaque. Mahler nous laisse principalement un legs de 9 symphonies et une symphonie déguisée, le chant de la terre. Mahler est l'héritier de Wagner et de Bruckner, dont il a d'ailleurs été l'élève. Ses symphonies sont d'immenses fresques, d'une heure et plus, qui requièrent des effectifs considérables. Sibelius apprend d'abord la musique en famille. À 15 ans seulement, il se décide à entamer des études musicales. Puis il va les compléter en Allemagne, et c'est là qu'il découvre la musique de Bruckner, qui lui inspire la volonté d'écrire de la musique symphonique. En 1900, il fait jouer Finlandia, un poème symphonique aux accents patriotiques. C'est un triomphe. Du jour au lendemain, Sibelius est un héros national. L'État finlandais lui offre une rente à vie. 2 ans plus tard, nouveau triomphe avec la 2e symphonie. Sibelius n'est plus seulement un patriote, mais aussi un maître européen de la symphonie. Le dernier d'ailleurs à écrire des symphonies, avec Gustav Mahler. En effet, en ce début du XXe siècle, la symphonie en tant que forme est complètement délaissée. Pour prendre l'exemple de 2 contemporains exacts de Sibelius et Mahler, Richard Strauss n'écrit plus que des poèmes symphoniques et Debussy compose des triptyques pour orchestre qu'il se refuse à baptiser symphonie. Mais Sibelius et Mahler ont des conceptions bien différentes de la symphonie. En octobre 1907, les deux musiciens se rencontrent. Le bouillant Mahler et Sibelius l'introverti ont chacun de leur côté rendu compte de la conversation qu'ils ont eue. Sibelius défend l'idée d'un style rigoureux et d'un fil secret et organique qui doit relier tous les éléments de la symphonie. Mahler n'est pas d'accord. « Non, non, dit-il, une symphonie doit être comme le monde, elle doit tout embrasser. » Ce désaccord n'empêche ni la cordialité entre les deux hommes, ni leur respect mutuel en tant que compositeurs. Sibelius compose alors sa 4e symphonie, un sommet de la 16, tandis que Mahler travaille à sa 8e, qui sera surnommée « Symphonie des 1000 », en raison du millier d'instrumentistes et de chanteurs qui seront mobilisés pour la première 3 ans plus tard. Mahler n'écrira plus que sa 9e et le chant de la terre, dont la dernière pièce, l'adieu, prend des allures autobiographiques, Mahler se sachant condamné. Sibelius vivra jusqu'en 1957, mais ses dernières œuvres, la 7e symphonie et le poème symphonique Tapiola, datent des années 20. Il restera ensuite muré dans le silence. Voici de Sibelius la valse triste, l'un des tubes de la musique classique, composé en 1902. Colin Davis dirige l'Orchestre symphonique de Boston.
Thank you.
Toujours de Sibelius, voici le scherzo de la 6e symphonie, créé en 1912. C'est une œuvre pleine de fraîcheur et de sérénité. L'Orchestre philharmonique de Berlin est dirigé par Herbert von Karajan. Écoutons de Mahler la première partie de l'Adieu, la dernière pièce du Chant de la Terre. Le style de Mahler s'est dépouillé pour faire entendre ici une poignante désolation. Nous entendrons Herbert von Karajan à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin.
Thank you.
Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.